c'est ici que nous pourrions commencer, Jean-François Méjanès, au cabinet des dessins du Louvre, devant ce dessin que vous venez de sortir, non pas d'Hubert Robert, mais...
Jean-Paul Panini. Son maître, d'une certaine manière, mais pas son seul maître. C'est une sorte de caprice. Un caprice rehaussé d'aquarelle. Hubert Robert a relativement peu utilisé l'aquarelle, mais tout à fait dans cet esprit de perspective qui a été la première des leçons de Panini pour Hubert Robert. Ce problème de perspective, n'est-ce pas, ces deux rangées de colonnes inspirées d'un temple antique se dirigeant vers un grand bâtiment arcade, manifestement inspiré, lui, du Colisée, sur le côté un arc antique avec l'arc de Janus, et au milieu, une scène, un apôtre en train de prêcher au milieu de cette scène antique. À l'antique, plutôt. La scénographie est permanente chez Hubert Robert. C'est un homme qui, en fait, n'avait aucune formation artistique de départ. Il est né dans une famille d'origine lorraine, d'assez bonne culture. Il a reçu lui-même une formation très poussée au Collège de Navarre. Il a fait des études qu'on dirait au moins secondaires, et ce qui, au XVIIIe, était très rare, et en particulier dans le milieu des artistes. Et il n'était pas du tout décidé qu'il soit peintre.
Une vie, une œuvre, Hubert Robert, 1733-1808, par Simone Douek, réalisation Françoise Camard.
À Madame de Grolier. Si jeudi vous pouviez venir vous promener à Auteuil, vous verriez le tableau dont d'avance je vous envoie la description. Comme ces sortes de devants de cheminée sont relégués tous les hivers dans des garde-meubles, j'ai voulu que celui-ci, avec une simple bordure, fît tableau pendant l'hiver. En conséquence, j'en ai fait un tableau d'incendie. C'est le feu qui prend dans l'intérieur d'un petit casin à l'italienne, orné de statues, bustes et architectures. Comme le grand foyer se trouve à l'entrée de la maison, on sauve par le moyen d'échelles les malheureux qui sont à l'intérieur, dont on a déjà retiré quelques effets précieux, entre autres un beau tableau de fleurs fait par Madame de Grolier. Une mère s'est échappée du feu avec toute sa petite famille, dont elle porte le plus jeune dans une bercelonnette sur la tête. On voit sur le premier plan des pompiers qui arrivent avec un tonneau d'eau et des seaux. Dans le fond du tableau, on aperçoit le parc, séparé de la maison par une balustrade ornée de statues.
Donc là, nous sommes au deuxième étage de la cour carrée, dans la salle qui est consacrée à Fragonard et où il y a des tableaux importants d'Hubert Robert. Nous sommes là devant le portrait de l'artiste peint par Elisabeth Vigée-Lebrun, qui était une de cette grande portraitiste de la fin du XVIIIe siècle et qui était une grande amie d'Hubert Robert. Elle le peint donc en 1788. Donc l'artiste a déjà un certain âge, et de l'aveu d'Elisabeth Vigée-Lebrun, c'était le plus beau portrait qu'elle ait réalisé. Il faut dire que c'est un portrait merveilleusement vivant. On aperçoit donc l'artiste, qui est en vêtements riches, mais enfin un peu négligé comme celle d'un artiste. En fait, il est habillé en costume de travail, si je puis dire, avec le foulard blanc autour du cou, et surtout il a dans sa main gauche donc sa palette et ses pinceaux, et il se penche sur une sorte de fenêtre de pierre, comme s'il observait le paysage qu'il allait se mettre à peindre. L'homme a l'air tout à fait jovial, hein, il a un petit peu rond, un visage rond, des cheveux grisonnants, il ne porte pas de perruque. Son crâne est un petit peu dégarni, donc tout ça est très naturel, à la fois dans la pose, dans le costume et aussi dans l'expression de la figure.
Il est plein de désir et de gourmandise,
tout à fait, hein,
pour ce qu'il regarde, ce qu'il va peindre.
Et je pense que là aussi, Elisabeth Vigée-Lebrun a su rendre le caractère.
Voilà,
tout à fait, vous avez raison, c'est un artiste qui a l'air gourmand, gourmand de ce qu'il va justement représenter, de la nature qu'il aperçoit, peut-être des amis qui sont peut-être présents au moment où on le peint. Et là, il est penché comme s'il regardait les quatre grands tableaux que le Louvre a la chance de conserver, qui sont donc consacrés aux monuments antiques de la France. Ce sont les quatre Hubert Robert, sans doute les plus célèbres que l'on connaisse, avec le fameux pont du Gard qui orne donc cette salle du Louvre.
Il regarde, donc, penché vers la gauche. Pourrait-on dire, aujourd'hui, regard prémonitoire, télescopage du temps ? Il veille, comme s'il était conservateur de sa propre œuvre, après l'avoir été pour les œuvres des autres, dans ce Louvre naissant où n'étaient pas encore accrochés ces quatre grands tableaux devant lesquels nous a menés Marie-Catherine Sahut. À côté du pont du Gard, aux nuages rougeoyants, Orange et son arc de triomphe, Nîmes avec trois monuments. Et dans le quatrième tableau, comme une perpétuelle mise en abîme de ses préoccupations, l'espace intérieur de la maison carrée où s'accumulent des vestiges antiques, comme dans une réserve de musée qui aurait contenu à son tour les rêveries d'Hubert Robert. Des rêveries qui flottent de la lumière à l'ombre. L'ombre des galeries du Colisée, l'ombre sous l'arche du pont du Gard, l'ombre des bosquets dans les jardins, mais aussi l'ombre des réalités, celle de la prison, où il passa un an sous la terreur, suspect d'avoir fréquenté trop la noblesse et la royauté pour qui il travaillait. Car il avait, dit Marcelin Plesnay, une tête bien faite et l'étoffe de celui qui s'est mené bien sa carrière, laquelle était déjà bien engagée dès son retour de Rome, où il passa plus de 10 ans. Reste à l'imaginer là-bas, jeune homme, les pieds foulant cette petite fleur sauvage nommée ruine de Rome qui pousse généreusement au milieu des blocs de pierre, à imaginer ses courses fantasques. « Je ne puis concevoir, » lui écrivait Elisabeth Vigée-Lebrun, « comment il a pu vous venir l'idée si hasardeuse de grimper jusqu'au faîte du Colisée pour l'unique plaisir d'y planter une croix. » Ou même encore, comme le relate un de ses biographes, cette mort poétique à laquelle il échappa avec Fragonard quand s'écroula, au-dessus d'eux, une vieille muraille.
C'est un peu le hasard qu'il a décidé à partir, tout simplement parce qu'il a eu l'occasion de partir avec le comte de Stainville, le futur duc de Choiseul, le ministre de Louis XV, et qui avait été nommé ambassadeur à Rome. Et Hubert Robert a sauté sur l'occasion, si j'ose dire, en partant pour Rome, en accompagnant donc Stainville.
Mais il entre dans un atelier.
Alors, quand il arrive à Rome, on ne sait pas très bien. Il rentre à l'Académie de France à Rome. Cette institution qui avait été créée donc sous Louis XIV et qui recevait les gens qui avaient reçu le grand prix de peinture, de sculpture ou d'architecture. Les trois disciplines étaient étudiées à l'Académie de France à Rome. Et l'Académie était à ce moment-là installée au Palais Mancini sur le Corso et s'y côtoyait une douzaine d'artistes, peintres, sculpteurs et architectes. Et quand Hubert Robert y est admis, c'est Charles de Natoire qui en est le directeur. Et ses camarades de pension seront principalement le peintre Honoré Fragonard. Parfois, on peut confondre Fragonard et Hubert Robert durant leur séjour à Rome. Leurs dessins sont souvent très proches, en particulier dans le domaine des paysages. Et le sculpteur Pajou. Les architectes Père et de Wailly, Charles de Wailly. C'est toute une équipe qu'on va retrouver ensuite dans la dernière partie de la carrière d'Hubert Robert, quand il va devenir l'un des créateurs du Muséum National, autrement dit de l'actuel Musée du Louvre. On lui doit en particulier la création du réaménagement de la Grande Galerie telle qu'on la voit aujourd'hui.
Il y a surtout la présence d'Hubert Robert à Rome dès 1754, il a 21 ans.
Marcelin Plénet.
Il découvre Rome. Un peu comme aujourd'hui le rapport de Frédéric II aux Français, le rapport à Rome de l'époque est tout à fait inimaginable. Si on va à Rome aujourd'hui, eh bien les ruines sont encerclées, il y a des gardiens. Et à l'époque, ces ruines sont habitées. Ces ruines sont habitées, on les traverse, il y a des maisons au milieu des ruines, il y a une vie au milieu des ruines. Et je pense que ça, c'est un point important. Il a une connaissance existentielle du siècle que les autres n'ont pas. Il est en effet né en France, dans ce lycée, il est né à Paris, et il a une connaissance existentielle tout à fait particulière de ce siècle, qui fait que les ruines ne vont pas être seulement, comment dire, quelque chose d'archéologique, mais vont être en quelque sorte, je dirais, un peu comme elles le sont à Rome, c'est peut-être ce qui l'a frappé le plus d'ailleurs, vont être habitées de l'intérieur, à la fois comme célébration historique et comme philosophie du siècle. Je crois qu'il y a en effet chez Hubert Robert une philosophie du siècle. Le XVIIIe siècle est évidemment un des grands siècles français. On va y trouver Diderot, Rousseau, D'Alembert, Buffon, Voltaire, les Lumières, Laclos, Beaumarchais, Mozart. C'est un siècle tout à fait extraordinaire. Soler s'écrivait à propos de ce XVIIIe siècle dans un petit livre qu'il a publié chez Gallimard sur le XVIIIe siècle. « Pourquoi les Français sont-ils le plus souvent indifférents à l'Europe ou traumatisés par elle ?» C'est qu'à droite comme à gauche, on ne leur dit presque jamais rien de leur propre histoire. Quand l'Europe était bel et bien française, unifiée dans cette langue qui se confondait alors avec la fierté, avec la liberté de vivre, comme la liberté de penser. C'est vraiment un siècle tout à fait extraordinaire. Mais on peut aller même plus loin. Il faut quand même situer ce qui se passe à cette époque, y compris Hubert Robert, dans une Europe française. Il faut savoir que Frédéric II, à la fin du XVIIIe siècle, va demander à son académie de faire un compte-rendu pour savoir si la langue française est la langue universelle. Il va y avoir là-dessus plusieurs textes publiés, dont un texte très célèbre de Rivarol. Donc on a, vous voyez, on se demande en Prusse, au moment où Hubert Robert est en activité et vit, on se demande en Prusse si la langue française est la langue universelle. Mais ce n'est pas tout. Catherine II elle-même parle français, Catherine II fait venir Diderot, prend conseil auprès de Diderot, achète la bibliothèque de Diderot et également a comme commissaire pour ses achats de peinture Diderot en France. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une époque tout à fait où le français est dominant et extrêmement important.
Et c'est ainsi d'ailleurs que Hubert Robert donc se retrouve au musée de Saint-Pétersbourg.
Absolument, c'est la collection de Catherine II. On est vraiment dans un siècle extrêmement décisif et important. La vie artistique n'a jamais été aussi brillante, l'esprit aussi vif. Et on ne peut pas isoler Hubert Robert de cela, dans la mesure où, dès le premier salon où Hubert Robert expose, Diderot ne va pas consacrer moins de 40 pages à la présence d'Hubert Robert. C'est les Lumières elles-mêmes qui reconnaissent en Hubert Robert l'artiste qu'il est et qui s'interrogent sur ce qu'il en est d'Hubert Robert.
Imaginez sur deux grandes arches cintrées un pont de bois d'une hauteur et d'une longueur prodigieuses. Il touche d'un bout à l'autre de la composition et occupe la partie la plus élevée de la scène. Brisez la rampe de ce pont dans son milieu et ne vous effrayez pas, si vous le pouvez, pour les voitures qui passent dans cet endroit. Descendez de là, regardez sous les arches et voyez dans le lointain, à une grande distance de ce premier pont, un second pont de pierre qui coupe la profondeur de l'espace en deux, laissant entre l'une et l'autre fabrique une énorme distance. Portez vos yeux au-dessus de ce second pont et dites-moi, si vous le savez, quelle est l'étendue que vous découvrez.
J'étais à Rome il y a 8 jours. Les forums romains sont désormais ouverts au public. Et on a un rapport tout à fait singulier et tout à fait particulier à ces ruines, à partir du moment où l'on est à l'intérieur et où on a le sentiment que l'on porte à l'intérieur quelque chose qui leur est à la fois familière et qui leur est étranger. Je pense que Hubert Robert a vécu en effet ces ruines un peu comme on peut les vivre aujourd'hui, bien qu'avec une expérience historique très différente, mais je crois qu'il les a vécues un peu comme la présence d'un palimpseste. Rome est une espèce de palimpseste. On passe des forums romains aux églises romanes, aux églises gothiques, aux églises renaissance, aux églises baroques. On a le Vatican qui est à côté. On a une sorte de couches qui sont les unes au-dessus des autres et que l'on est en mesure de traverser. C'est, je crois, la seule ville au monde où, en effet, on traverse littéralement, à pied, hélas en voiture aussi aujourd'hui, mais on traverse littéralement la totalité de sa propre histoire. Or, c'est une question qui se pose très sérieusement au XVIIIe siècle. La vision de l'histoire qui est en train de se constituer au XVIIIe siècle, eh bien, est une vision de l'histoire qui est une vision moderne de l'histoire. C'est-à-dire que si vous regardez l'histoire de l'art, par exemple, vous vous apercevez qu'elle trouve son origine, en quelque sorte, au XVIIIe siècle. C'est une vision de l'histoire qui, en très très peu de temps, s'est détachée de celle qui régnait jusqu'alors. C'est-à-dire, ça n'est plus l'histoire universelle de Bossuet. C'est l'histoire vue comme totalité. Et ce qui explique d'ailleurs cet intérêt pour l'art antique, cet intérêt, bien entendu, cet intérêt pour l'art antique est aussi un intérêt pour les ruines, et cet intérêt pour une histoire qui commence au-delà de simplement l'histoire chrétienne, qui commence en effet avec la Grèce, avec Rome, et qui va se constituer. Mais en même temps que cette histoire globale prend place et s'établit, en même temps naît une espèce de mélancolie, une espèce de mélancolie, à savoir que ce qui a été grand, eh bien, mon Dieu, se retrouve, en morceaux, en ruine, en effet. Se retrouvent en effet en ruine, et ces ruines continuent à être grandes, mais ce sont des ruines. Donc on entre dans un processus historique qui va d'ailleurs se développer d'une certaine façon, qui est aussi habité par la mélancolie. C'est-à-dire, d'un côté, on a le caractère extrêmement dynamique et, d'un optimisme sans mesure des Lumières, et de l'autre côté, on a par rapport à ce passé une attitude qui est ambivalente. On l'adore et on regrette qu'il soit passé, et que, passant, il se trouve dans cet état. Si vous voulez, il y a un livre qui, en ce XVIIIe siècle, ce n'est pas un livre qui est écrit par un Français, mais qui est écrit par un Anglais, qui va avoir une influence considérable d'ailleurs sur tous les historiens d'art. C'est le livre de Gibbons qui s'appelle « Grandeur et décadence de l'Empire romain ». Donc on est, vous voyez, avec cet intérêt pour les ruines, on est en même temps dans quelque chose de très positif et on est en même temps dans quelque chose qui est vécu difficilement, qui est vécu comme une décadence. Les ruines sont aussi vécues comme quelque chose qui n'a pas réussi, de l'ordre de la décadence. Et ça, je crois que c'est très, très, très important.
Je crois que c'est dans cette ville, oui, c'est ici.
On connaît alors évidemment énormément d'œuvres d'Hubert Robert. C'est un artiste très très prolifique.
Il est prolifique, ouais, de manière étonnante. Des milliers de peintures, des dizaines de milliers de dessins. Peut-être tous les dessins qu'on lui attribue ne sont pas de lui, ça sûrement pas. Mais il y a une production gigantesque.
Et le goût pour le dessin apparemment, non ?
Alors le goût pour le dessin, si vous voulez, c'était pour lui la manière la plus spontanée de traduire quelque chose. Il crayonnait tout le temps. C'est un album qui est resté intact, qui s'intitule « Recueil de compositions et d'études d'Hubert Robert, acheté à sa vente au mois d'avril 1809, donc à la vente après décès de l'artiste. » Alors une succession de pages où sont collées, alors le frontispice nous donne déjà une date.
Ah oui, l'école, les dessins dans le cahier.
Oui, oui. Pratiquement aucun de ces dessins n'est sur la page de l'album, sauf deux ou trois.
On va feuilleter un
alors,
petit
voyez,
peu.
Donc, voilà, donc le frontispice, lui, est dessiné le 30 mars 1783, donc après son retour de Rome à Paris, il rentre en 1765, recueil de 80 dessins, tant d'après nature que de composition, fait à Rome et à Paris par M. Robert le 30 mars 1783.
C'est très ordonné en même temps.
Oui, c'est méticuleux même.
Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce
alors là, c'est donc la porte Saint-Denis à Paris, une des portes construites pour un des arcs de triomphe construits après les retours de Louis XIV des campagnes de Flandre, et avec un très beau phénomène d'éclairage. Alors, une caractéristique, ces minuscules personnages par rapport à l'immense monument. Il y a comme ça un phénomène d'exagération, de proportion, de disproportion accentuée, et qui est assez surprenant.
Mais, et puis ces petits personnages qui marchent et qui sont croqués comme ça, ou la vie.
C'est ça, juste des points de la vie. Rien, il y a aucune, quelques traits de pierre noire pour mettre en place la grande architecture, et tout le reste, sinon, c'est de la couleur. C'est de la couleur en gris et en brun, mais c'est de la couleur, c'est un effet de couleur et de lumière que Hubert Robert traduit sur les 5000 mètres en frontispice. Là, un vrai caprice d'architecture à la Sanguine.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un caprice d'architecture, Jean-François Méjanès ?
Un caprice d'architecture, c'est, si vous voulez, c'est reprendre des éléments d'architecture en ruine ou intacts, ou récents, et qui n'ont rien à voir avec quelque chose de réel. C'est une sorte d'invention que l'artiste propose au spectateur. Là aussi, un croquis vraisemblablement fait sur le motif.
C'est un énorme poisson, non ?
Non, c'est une sorte de rocher sur lequel est posé le vêtement de l'homme qui vient de se déshabiller en laissant son chapeau. Et manifestement, c'est un homme qui est en train de pêcher et qui s'est.
Ah oui, il est tombé en arrière.
Qui est tombé en arrière. Jambes, ou qui laisse. qui a le dos dans l'eau et les pieds dehors. Une sorte de notation comme cela. Alors, ça, c'est un tombeau qui se trouve. Au sud de Rome, le tombeau des Curias, je crois, ou des Horaces, je ne sais plus. Non, des Horaces, pardon. Et qu'il dessine assez précisément.
Et autour, la végétation.
Et la végétation couverte, la ruine couverte de végétation, c'est le propre de la nature qui a repris sa possession de ses constructions humaines. La ruine, c'est cela. Le domaine de ce qui a été admirablement conçu, construit, réalisé et qui s'est effondré. Que la nature réenveille peu à peu.
Donc il y a toute une démarche temporelle dans sa peinture.
Oui, oui. Ah oui, il y a un sens très, très profond. Je crois que c'est un homme qui a senti très tôt l'écroulement très prochain du monde qui était le sien. Et dès son retour en France... Bon, la ruine est effectivement un genre qui rencontre un grand succès, mais il se lance à fond dedans et de manière très convaincue. Enfin, je crois que c'est vraiment pour lui, il envisage la destruction du monde, enfin l'écroulement du monde qui est le sien. Il en a vraiment un sentiment très, très puissant.
Je retrouvais quelques facultés d'attention à la pensée d'aller voir le célèbre jet d'eau d'Hubert Robert. Dans une clairière réservée par de beaux arbres dont plusieurs étaient aussi anciens que lui, planté à l'écart, on le voyait de loin, svelte, immobile, durci, ne laissant agiter par la brise que la retombée plus légère de son panache pâle et frémissant. Le XVIIIe siècle avait épuré l'élégance de ses lignes, mais fixant le style du jet, semblait en avoir arrêté la vie. À cette distance, on avait l'impression de l'art plutôt que la sensation de l'eau. Le nuage humide lui-même qui s'amoncelait perpétuellement à son faîte gardait le caractère de l'époque, comme ceux qui, dans le ciel, s'assemblent autour des palais de Versailles. Mais de près, on se rendait compte que, tout en respectant comme les pierres d'un palais antique le dessin préalablement tracé, c'étaient des eaux toujours nouvelles qui, s'élançant et voulant obéir aux ordres anciens de l'architecte, ne les accomplissaient exactement qu'en paraissant les violer, leurs mille bonds épars pouvant seuls donner à distance l'impression d'un unique élan. Celui-ci était en réalité aussi souvent interrompu que l'éparpillement de la chute, alors que de loin il m'avait paru infléchissable, dense, d'une continuité sans lacune. De près, des gouttes sans force retombaient de la colonne d'eau, en croisant au passage leur sœur montante, et parfois, déchirées, saisies dans un remous de l'air troublé par ce jaillissement sans trêve, flottaient avant d'être chavirées dans le bassin. Elles contrariaient de leurs hésitations, de leur trajet en sens inverse, et estompaient de leur molle vapeur la rectitude et la tension de cette tige, portant au-dessus de soi un nuage oblong fait de mille gouttelettes, mais en apparence peint en brun doré et immuable, qui montait, infrangible, immobile, élancé et rapide, s'ajouter aux nuages du ciel.
Le XVIIIe siècle, d'une certaine façon, a inventé la nature, dont le XIXe, à travers les peintres français impressionnistes, vont profiter ô combien. Mais je crois que c'est à travers Rousseau, à travers Jean-Jacques Rousseau, par exemple, le XVIIIe siècle a inventé la nature, avec tout ce que cela comporte d'apparition, disparition, et tout ce que cela comporte, en effet, de, si l'on veut, lorsqu'on va un peu plus loin, de mélancolie. Mais il a inventé la nature, et il a inventé une nature, si je puis dire, naturelle. N'est-ce pas ce qui quand même va le distinguer des siècles précédents, c'est-à-dire du grand siècle. Il y a un mouvement spontané et naturel d'accueillir ce qu'il en est de la nature et de s'y retrouver jusque y compris dans ce qu'elle suppose de destruction des œuvres d'art, c'est-à-dire des œuvres qui sont, comme l'on en indique, des artifices, et de destruction de la vie même, et de s'y retrouver chez soi, à son aise. C'est ce qui explique c'est cette multiplicité de personnages, ce petit peuple qui habite les ruines, qui y vit, qui en vit, parce qu'on va aussi y trouver des animaux, on ne va pas seulement y trouver des hommes, on va y retrouver des petits personnages entièrement dans leur vie quotidienne, naturelle, avec bien entendu un charme fou, un charme inouï fou, parce que en plus, témoin d'une simplicité de vie qui ne se retrouvera peut-être plus dans un monde qui s'offre simplement dans la vue de ce qu'il est. Et c'est une population qui a encore plus de charme d'être pris à la fois dans cette lumière qui baigne le passé architectural et qui baigne un présent qui n'a pas d'ambition autre que celui d'être présent.
Partant d'un paysage des fois à l'état brut, il arrivait à faire un tableau, c'est-à-dire une œuvre composée par l'intelligence et la sensibilité de l'homme. Donc le paysage lui est un sujet d'inspiration suffisant pour faire une œuvre, au même titre qu'un portrait, un visage pouvait être, disons, un portrait ou une scène historique pouvait être un sujet, mais pour lui, le paysage était un sujet. Donc il prenait un paysage et le peignait. Certes, des fois il le changeait un peu, mais Cézanne aussi. Je veux dire, tout paysagiste peut transformer un arbre ou le changer de place si ça l'intéresse pour son tableau. Mais c'est sûr que les tableaux, les paysages d'Hubert Robert sont particulièrement, je dirais, frémissants. Par ce souci de capter justement le temps qui passe, les ruines. Il revient sans arrêt sur les ruines comme étant un thème qui lui est cher. Et non seulement ça, mais les effets de soleil, ou les effets de reflets d'eau, les effets de transparence des matériaux, tout cela. Il utilise les anfractuosités des rochers, les ombres qui se lovent dans les coins, etc. Donc tout ça, il le sent. Donc c'est l'homme sensible devant le paysage.
Au château de Méréville, avec Michel Baridon.
Ça, c'est le plan du domaine. Hein. Oui. Alors, en gros, si vous voulez, voilà la forme du domaine. C'est comme une espèce de cercle aplati. Et tout l'intérêt du jardin, c'était les fabriques comme on a, qui sont à la lisière de ce cercle. Et la partie centrale est occupée par de l'eau, qui est la juine, et qui est légèrement creuse. Donc vous vous trouvez devant une configuration d'assiette creuse, pour ainsi dire, dont le centre serait occupé par de l'eau et la périphérie par les fabriques. Par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle la colonne Trajane, c'est-à-dire que c'était une colonne qui avait été érigée, en, si vous voulez, presque en hommage à Vernet, le peintre Vernet, et qui appartient au domaine, mais qui n'en est, qui est pas dedans, mais qui est classée monument historique et qu'on peut voir. Ça, c'est la laiterie. Alors, quand on sera sur place, je vous signalerai. Ça, c'est le château qui est là, peint par Hubert Robert, tel qu'il était à l'époque, avec la colonne rostrale élevée en la, à la mémoire des fils Laborde. Bon, ça, attendez, on continue par là.
Mais cette vue, c'est l'arrière du château.
Oui. Ça, c'est le monument à Cook, l'explorateur anglais. Ça, c'est tel qu'il était à la fin du 19e siècle, quand il était encore en place, se reflétant dans l'eau. Ça, c'est le temple de la piété filiale, comme il était juché sur sa colline et il est maintenant à Jeur. Ça, c'est une partie des grottes. Un pont rustique. Et le temple de la piété filiale, ici, avec le château dans le lointain. Mais ça, c'est reconstitué par Hubert Robert.
Toutes ces fabriques que vous venez de nous montrer en photo, Michel Baridon, elles ont été transférées donc dans un domaine voisin.
Dans un domaine voisin, une quinzaine de kilomètres, oui, à Jeur.
Démontées pierre par pierre.
Démontées, oui, et transportées par le grand paysagiste Achille Duchesne. Et évidemment, c'est dommage pour Méréville, mais d'un autre côté, ça a sauvé ces fabriques, parce que, vu l'instabilité du terrain, vu le peu d'entretien des propriétaires de l'époque, elle risquait fort de tomber en ruine et de se perdre irrémédiablement. Donc, par certains côtés, c'est dommage qu'elles soient parties à Jeur. Par d'autres, elles ont été sauvées par cette opération.
Et c'était à quel moment, ça ?
À la fin du 19e. Moi, je pense que le mieux, ce serait qu'on fasse la promenade, qu'on fasse des commentaires sur place, et voilà. C'était un jardin circulaire, si vous voulez, et c'était la nouvelle forme qui avait été mise à la mode par les Anglais, c'est-à-dire une forme de parcours circulaire. On partait et on faisait 360 degrés, ce qui était totalement à l'opposé des grandes perspectives de Versailles, où au contraire, vous étiez face à l'ouest, et puis vous marchiez face à l'ouest, il n'était pas question que vous fassiez autre chose, vous étiez pris entre deux palissades. Tandis que là, au contraire, c'est une promenade, de ce que j'appelle, moi, de l'homme sensible, c'est-à-dire une promenade qui fait que vous partez avec le soleil dans le dos, par exemple, et quand vous avez fait vos 360 degrés, vous avez eu le soleil de tous les côtés, hein, puis en face, et vous retrouvez le soleil comme vous l'aviez quitté. Mais vous avez fait une excursion circulaire qui fait que vous avez été exposé, la lumière a changé tout le temps. Donc le plaisir, c'est ces changements. Le plaisir est dans le changement, et pas du tout dans l'uniformité de longues avenues, etc.
Alors voilà, on arrive juste parlant et en marchant,
voilà.
À l'arrière du château.
Voilà. Et alors là, vous êtes sur la terrasse qui domine ce creux de l'assiette creuse dont on parlait, avec les méandres de la Juine, des méandres qui ont été préparés, qui ont été faits par la Borde, pour que la rivière sinue. C'est une rivière très pure, avec une très belle eau. Donc c'est intéressant pour les gens qui aiment l'histoire des jardins, parce qu'ils peuvent reconstituer par l'imagination l'endroit où se trouvaient les fabriques, etc. Vous êtes là devant le parcours circulaire, et qui entoure cette juine.
Et donc c'est sur ce parcours circulaire qu'on avait trouvé qu'on trouvait les fabriques.
On trouvait les fabriques qu'on voyait depuis le château. Si vous voulez, l'esthétique n'étant plus du tout comme à Versailles, par exemple, une esthétique de la longue perspective qu'on a depuis la terrasse jusqu'à l'extrémité du Grand Canal, mais au contraire une esthétique de panorama avec des points forts qui étaient les fabriques disposées dans le paysage, de façon à ce que le regard soit un regard embrassant et non pas un regard conduit. Et ça, c'est la nouvelle optique du paysage, du jardin paysager qui a trouvé cette formule-là au XVIIIe siècle.
Donc Hubert Robert y a pris une grande part, évidemment. C'est lui qui a organisé ce jardin, c'est lui qui en a conçu.
Je pense qu'il y a eu, comme toujours, une espèce de partage des responsabilités entre Laborde, qui n'était pas le premier venu en matière de jardin, et un homme fort intelligent, en demeurant, qui a d'abord pris conseil de Bélanger. Puis Laborde et lui se sont querellés sur des problèmes, je crois, aussi bien d'argent que des problèmes esthétiques. Donc il a préféré dire à Béranger de s'en aller, engager Hubert Robert à sa place, qui était un homme beaucoup plus souple, qui était un peintre. Béranger est architecte, et donc avec Hubert Robert, un peintre. Et comme ces jardins paysages sont des jardins de peintres, donc l'entente s'est faite, et Hubert Robert étant plus souple, finalement, ils se sont très bien entendus.
Et alors Hubert Robert, il a peint au sens propre, au sens figuré,
tout à fait,
ce jardin. Alors parlez-nous de ce qu'a fait et de ce qu'a peint Hubert Robert ici.
Ah ben, Hubert Robert, dans la mesure où il contribuait à la mise en place du jardin, pour faire plaisir et aussi pour représenter ce qu'allait être le jardin, il le peignait, et ça intéressait beaucoup Laborde, qui avait dans son château ici des grandes toiles d'Hubert Robert. Hubert Robert, en plus, était connu de Marie-Antoinette, pour qui il avait travaillé. Il a travaillé pour Petit Trianon, le jardin de la Reine, et puis il a travaillé aussi pour Louis XVI quand il a fait les bains d'Apollon. Donc c'était un peintre en vogue.
Marie-Catherine Sahut.
La maquette du Louvre en 1715 qui montre ce qu'a connu Hubert Robert. Hubert Robert, donc, qui a vécu au Louvre depuis 1784 jusqu'à sa mort. Il faut dire que le Louvre au XVIIIe siècle était une grande cité artistique. Donc Hubert Robert, lui, a bénéficié d'un logement, c'était une faveur royale. Il a obtenu ce logement lorsqu'il a été nommé garde des tableaux du roi, qui est l'équivalent d'un conservateur aujourd'hui. Il était donc en 1784 logé sous la Grande Galerie, comme la plupart des autres artistes. C'était des petites maisons de plusieurs étages qui étaient donc depuis le sous-sol jusqu'au plancher de la Grande Galerie. Il était donc installé ici et il bénéficiait également d'un atelier qui était placé ici dans la cour carrée.
Ah oui.
Et il est aussi le peintre du Louvre. C'est un des rares artistes à avoir donc représenté le Louvre, à la fois l'extérieur du Louvre et surtout les aménagements ou les projets de la Grande Galerie. Et nous allons un petit peu plus loin, donc voir une série d'esquisses. Neuf petits tableaux d'Hubert Robert qui sont donc conservés dans ces salles d'histoire du Louvre en mezzanine à côté de la pyramide. Alors il y a à la fois des projets et puis des œuvres qui représentent la réalité. La Grande Galerie, c'est un immense couloir très prestigieux, donc plus de 460 mètres, qui est rythmé par 46 fenêtres de chaque côté, une voûte qui est close, et déjà, dans une partie, un décor laissé inachevé par Nicolas Poussin au milieu du XVIIe siècle. Donc ce lieu n'est pas vraiment propice pour y exposer des œuvres, d'une part.
Il en représente quand même.
Parce qu'il est, en effet, c'est un long couloir, parce qu'il y a les fenêtres et que l'éclairage donc, n'est pas très bon, qu'il n'y a pas non plus beaucoup de place pour accrocher les tableaux. Mais là, on est justement en 1795, donc ça, c'est une vue réelle de la galerie après l'ouverture au public sous la Révolution. Alors voici ensuite... un projet d'aménagement donc, qui date de c'est la grande galerie en cours de restauration qui date des travaux qui ont été faits entre 1796 et 1799 justement pour aménager la galerie de manière plus favorable pour une exposition publique. Alors Hubert Robert dans tout cela il avait été nommé donc garde des tableaux du roi, mais en tant que peintre d'architecture on lui avait également demandé son avis sur la manière d'aménager la galerie, et en fait c'est sa réponse il la donne à travers la peinture, et vous avez ici donc plusieurs projets qui montrent comment pourrait être une grande galerie bien éclairée. Et on voit ici, donc, dans cette esquisse, une vue de la galerie qui a perdu la plupart de ses fenêtres, qui ont été remplacées par des niches, et surtout un magnifique plafond à caissons percé de grosses verrières qui donne donc un parfait confort pour la visibilité des tableaux. Et on voit les visiteurs qui se penchent sur les œuvres et qui ont l'air de pouvoir admirer donc très confortablement les œuvres qui sont présentées.
Grâce à cet éclairage zénithal.
Grâce à cet éclairage. Donc c'est une sorte de projet très convaincant de ce qui devrait être fait pour aménager la grande galerie. On avance dans le temps. Hubert Robert représente la galerie entre 1801 et 1805. On voit qu'il est fidèle dans son intérêt pour la galerie. Et ça, c'est une vue réelle donc, de la galerie après les travaux, avec l'accrochage des œuvres. On voit que le temps passe, puisque la mode portée par les visiteurs est déjà a beaucoup évolué, et celle de l'époque néoclassique.
Alors les travaux sont commencés, mais on n'a toujours pas de percement de la voûte, on n'a pas d'éclairage vital encore.
Toujours pas de percement de la voûte, et en fait ce percement va se faire seulement au XIXe siècle, dans les années 1850, et se poursuivre ensuite tout au long du XIXe siècle. Donc on peut considérer que Hubert Robert a vraiment été une sorte de précurseur, d'inventeur, d'un système architectural qui va donner la configuration actuelle de la galerie, puisque les architectes ne vont avoir de cesse finalement de s'adapter et de suivre le modèle donné par Hubert Robert. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on visite la Grande Galerie aujourd'hui, on a l'impression que c'est celle que Hubert Robert a représentée, alors qu'il a fallu un siècle et demi pour arriver à cette réalité.